VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Ouagadougou, 17h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. En Zambie, le président Edgar Lungu a affirmé aujourd'hui avoir honte des violences xénophobes qui ont secoué la capitale Lusaka en début de semaine. Et il a invité les ressortissants étrangers à regagner leur maison. Des propos tenus lors d'une visite dans une église de la capitale qui a recueilli quelques 400 étrangers. Les émeutes de lundi et de mardi ont éclaté après la découverte de 7 cadavres amputés de plusieurs organes. Et les violences ont visé des immigrants rwandais et burundais vivant dans les bidonvilles de Lusaka. La foule en colère a saccagé leurs maisons et commerces, provoquant la fuite de centaines d'immigrés. Violence au Burundi, au moins 3 personnes, dont un officier de l'armée, tué mercredi soir à Bujumbura et dans le sud du pays. Selon l'armée et l'administration nationale, les mobiles de l'assassinat du colonel dans un quartier au nord de la capitale ne sont pas encore connus. Les deux autres victimes ont été abattues dans la province méridionale de Bururi. Plus de détails avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Devant la maison de feu colonel Emmanuel Buzuona, assise au quartier Bukirasazi de la zone Kinama au nord de Bujumbura, des voisins sont en deuil. Ce colonel de l'armée burundaise a été tué mercredi soir par des hommes armés alors qu'il rentrait chez lui. Les témoignages des habitants de Bukirasazi affirment qu'il a été abattu par des gens armés alors qu'il revenait d'une station faire le plein d'essence de sa moto. Le porte-parole de l'armée, le colonel Gaspard Waratuza, affirme que les enquêtes ont commencé pour identifier les criminels. Gaspard Waratuza indique qu'il y a 5 mois, il était en mission dans une école appelée Staff College de Dar es Salaam en Tanzanie. Feu colonel Emmanuel Buzuona attendait calmement une nouvelle affectation. Par ailleurs, sur les collines Kivumu et Mushishima, en commune de Mugamba, province de Bururi, au sud du Burundi, 2 personnes ont été tuées mercredi soir dans un bistrot, selon le gouverneur Christian Nkurunziza. Mais d'autres sources parlent de 4 personnes tuées, dont un enseignant d'une école primaire. Depuis plusieurs jours, des assassinats et tueries sont observés dans plusieurs localités du Burundi, malgré la calmie relative des derniers mois. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Au Soudan du Sud, le gouvernement du président Salva Kiir et l'ex-rébellion déclarent avoir conclu un accord pour laisser l'ancien chef rebelle Riek Machar revenir dans la capitale pour former un gouvernement d'union nationale. Des détails avec Nani Talani.
Riek Machar est attendu aujourd'hui à Juba, a annoncé l'un de ses porte-parole, James Gadek Dak, depuis Nairobi au Kenya. Son retour, initialement prévu lundi, avait été repoussé pour des raisons logistiques, a précisé la même source. Machar et son rival, le président Salva Kiir, ont signé un accord en août pour mettre fin à un conflit de 2 ans. Le retour annoncé de Riek Machar à Juba suscite un fragile espoir de régler d'une guerre civile de plus de 2 ans qui a fait des dizaines de milliers de morts et plus de 2,3 millions de déplacés. Il signifie la relance de l'accord de paix signé le 26 août 2015. Le texte prévoit en effet un cessez-le-feu et un mécanisme de partage du pouvoir entre les 2 hommes forts du pays.
Élection présidentielle au Tchad, l'opposition démocratique menace de ne pas reconnaître les résultats si la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, déclare gagnant dès le premier tour le président sortant Idriss Déby Itno. Les opposants entendent former leur propre gouvernement de salut national et ils ont le soutien d'une majorité de la société civile. Dobian Assingar est le président d'honneur de la Ligue tchadienne des droits de l'homme.
Nous sommes dans une poudrière. Il faut craindre donc des conflits post-électoraux à ne pas en finir. C'est à la CENI de jouer son rôle pleinement. Si une partie se trouve lésée, ça veut dire que l'arbitre n'a pas joué correctement son jeu. Donc tout cela va se retourner contre la CENI qui n'a pas su être le bon arbitre.
Dobian Assingar, président d'honneur de la Ligue tchadienne des droits de l'homme. Le président de Guinée équatoriale, Teodoro Obiang-Nguema, arrivé au pouvoir il y a près de 37 ans, affronte 6 candidats dimanche à la présidentielle. Mais les principaux partis d'opposition boycottent une élection où le dirigeant sortant a l'assurance d'être réélu. Initialement prévue en novembre, l'élection a été avancée au 24 avril par décret présidentiel sans explication officielle.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest maintenant, en Côte d'Ivoire, la Cour suprême a rejeté aujourd'hui le pourvoi en cassation de Simone Gbagbo, l'ex-première dame du pays, ouvrant définitivement la voie à son procès pour crime de guerre. L'avocat qui assure la défense de Mme Gbagbo, Maître Rodrigue Dadier, s'est dit déçu d'une décision qu'il qualifie de politique. On l'écoute au micro d'Eric Manira-Kiza.
j'attendais beaucoup mieux de la Cour suprême. J'attendais qu'elle soit la Cour suprême, la haute cour qui statue en droit. Malheureusement, sous la pression du pouvoir politique, elle a préféré rendre une décision politique. Je suis complètement déçu parce que c'est une décision qui va rester dans les archives de la Côte d'Ivoire et 20 ans, 30 ans après, on verra qu'une décision pareille a été rendue, mais en contradiction de la loi, complètement en contradiction de la loi.
Quelles sont les conséquences éventuelles de cette décision?
C'est l'ouverture des assises, c'est tout. Et l'ouverture des assises, excusez-moi, je sais à 100% que Mme Gbagbo va être condamnée. Parce que le pouvoir politique veut que Mme Gbagbo soit condamnée, elle sera condamnée. Mon rôle sera au cours de l'assise de démontrer à l'opinion nationale et internationale que Mme Gbagbo n'a rien à se reprocher et qu'il n'y a aucun élément qui l'accable. Après, si la justice veut rendre une décision pour rendre service au pouvoir politique, ça c'est leur problème. S'ils veulent rentrer dans l'histoire en ayant été ceux qui rendent des décisions politiques, ben, ils en seront responsables vis-à-vis de l'histoire. Mais au moins, Mme Gbagbo et nous aurons fait notre part de montrer qu'elle n'a rien à voir avec les crimes qu'on veut lui faire porter.
Maître Rodrigue Dadjé, avocat de Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire. Au Mali, un responsable du groupe djihadiste en sardine a déclaré aujourd'hui à l'AFP à Bamako que son groupe retenait 3 collaborateurs du CICR, la Croix-Rouge internationale, qui, selon cette organisation humanitaire, ont été interceptés sans effusion de sang le week-end dernier dans la région de Kidal, dans le nord-est du pays. En contrepartie de la remise en liberté des 3 humanitaires, avec lesquels le CICR affirme avoir perdu contact depuis le 16 avril, en Sardine réclame la libération du guide des 3 captifs, Miaten Agmayaris, arrêté par la force française Barkhane, qui traque les djihadistes dans le Sahel, a expliqué ce responsable Noureddine Ag Mohamed. Afrique du Nord, l'Égypte a dénoncé l'immixtion du secrétaire général des Nations Unies dans les affaires internes du pays. Ban Ki-moon avait interpellé les autorités égyptiennes pour leur demander de garantir un procès transparent à 2 éminents activistes des droits de l'homme accusés de bénéficier illégalement des fonds étrangers pour leurs ONG. Plus de détails avec Eric Manirakiza.
Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Abou, a qualifié les propos du numéro 1 onusien de tentative d'intimidation vis-à-vis de la justice égyptienne pour influencer son travail. Mardi, le porte-parole de Ban Ki-moon avait dit dans un communiqué que l'ONU suit de près les affaires judiciaires qui visent les ONG poursuivies pour acquisition de fonds illégaux de l'étranger. Le communiqué citait nommément Gamal Eid et Ossam Bargat pour affirmer leur droit à un procès transparent et équitable. La clarification du gouvernement est intervenue pendant la visite du secrétaire d'État américain John Kerry au Caire, qui s'est déplacé pour manifester le soutien de l'administration Obama à la stabilité de l'Égypte. M. Kerry a aussi précisé qu'il a discuté avec le président Abdel Fattah al-Sissi des moyens de réduire les divergences avec son régime.
Fin du sommet du Conseil de coopération du Golfe à Riyad en Arabie Saoudite. Dans des commentaires après la réunion, le président américain Barack Obama a dit que les États-Unis et les monarchies du Golfe étaient unis dans le combat pour détruire le groupe djihadiste État islamique. Concernant l'Iran, rival chiite des royaumes sunnites du Golfe, le chef de l'exécutif américain a déploré les activités déstabilisatrices de Téhéran. Mais il a aussi préconisé le dialogue et exhorté l'Iran à régler ses différends avec ses voisins par des moyens pacifiques. Le sommet a confirmé l'intensification de la coopération militaire entre les États-Unis et les pétromonarchies du Golfe, déjà mentionné hier par Ashton Carter, le patron du Pentagone, Idriss Fall.
Ashton Carter, secrétaire américain à la Défense, s'exprimait à Riyad après une réunion avec ses homologues du Golfe. Le refus de Washington d'intervenir en Syrie pour déboulonner Bachar al-Assad et les négociations avec l'Iran, le grand rival chiite, étaient des pommes de discorde avec les monarchies du Golfe. Mais l'accélération de la coopération militaire proposée par Washington lors du sommet de Camp David semble avoir porté ses fruits. D'après le patron du Pentagone, en une année, les États-Unis ont autorisé plus de 33 milliards de ventes d'équipements militaires aux pays du Conseil de coopération du Golfe. Les patrouilles communes de navires de guerre se sont multipliées, tout comme les exercices militaires, avec un projet de défense aérienne et antimissile commun pour les 6 pays.
Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.